We young when memories keep on the wind. Alleluia. Resurrected, sick, good, exceed. Alleluia. Oh, upon all his name.
Présence dans le Tarn-et-Garonne 93.3.
Bonjour à toutes et à tous, à la pendule de présence, il est 12h, passé d'une minute à toutes et à tous, je vous souhaite une très très belle journée à l'écoute de nos programmes, puisque nous sommes ce vendredi dans l'octave de Pâques, alors très belle fête de Pâques à vous tous. Dans quelques instants, nous aurons la chronique verte de Benoît Guillard, aujourd'hui il sera accompagné de Franck Boucher qui est directeur du lycée agricole de Vic-en-Bigorre. Il nous proposera de faire le point sur l'agriculture aujourd'hui. Le coup de cœur en librairie, c'est le frère Martin de l'abbaye de Tournaille qui sera au micro de Anne-Rose Jankovic aujourd'hui. Ils nous parleront d'un livre de Daniel Margerat. Nous aurons également les informations, bien sûr, les informations régionales aux alentours de 12h30 et puis la chronique solidaire de Anne Deloy. Aujourd'hui, elle sera en compagnie de Elisabeth Lemière que nous avons eue déjà la semaine dernière. Elisabeth Lemière, elle est aumônier des prisons et d'hôpital et elle nous partagera son expérience au contact des personnes qu'elle rencontre au travers de la joie de Pâques. Et enfin, l'auteur mis à l'honneur aujourd'hui par Catherine Albrecht, ce sera Simone de Beauvoir qui a arpenté les beaux sentiers de nos belles Pyrénées. Voilà le programme de cette heure que je vous propose de partager ensemble et que nous débutons avec les titres des informations.
Le chômage repart à la hausse en Occitanie. Il a atteint 9,4% fin 2025, soit une augmentation de 0,7 points en un an. Dans le Lot, le dispositif national territoire éducatif ruraux déploie ses actions de Pressac à Luzèche pour renforcer l'enseignement sportif et culturel de 13 écoles et de 3 collèges. EDF investit 500 millions pour transformer la centrale de Montézic en batterie géante et doubler sa puissance. Face à la polémique, Bernard Doré, le maire de Mirande dans le Gers, défend des indemnités d'élus volontairement inférieures aux plafonds légaux. La ville de Tarbes organise sa 13e journée sport handicap ce samedi pour initier les personnes handicapées à de nouveaux sports. Et enfin, en Aveyron, 500 mètres carrés de Lego et des candidats de l'émission Lego Master exposent ce week-end.
Retour de l'information sur présence aux alentours de 12h30, toujours en compagnie de Jenny Li Chieb de l'Institut de journalisme de Toulouse.
Présence dans la vallée du Lot, 92.5.
Et comme tous les vendredis, voici la chronique verte de Benoît Guillard. Aujourd'hui, son invité, Franck Boucher.
La chronique verte.
Chers auditeurs de Radio Présence, bonjour. Nous nous retrouvons cette semaine encore pour la chronique verte de Benoît Guillard. J'ai le plaisir de rencontrer donc le directeur du lycée agricole de Vic, Franck Boucher. Et c'est l'occasion pour nous de l'interroger un petit peu sur sa vision, l'état des lieux de l'agriculture sur le territoire, l'attractivité des métiers autour de l'agriculture pour les jeunes qui s'inscrivent dans le lycée. Et puis aussi, en termes de formation, un petit peu la visée et puis les enjeux qu'il voit pour l'avenir des jeunes. Bonjour Franck et merci.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Benoît Guillard de passer par l'enseignement agricole pour les perspectives et la prospective agricole dans le département des Hautes-Pyrénées et plus largement.
Alors peut-être Franck, commencer par un petit état des lieux, un contexte, le lycée agricole, le nombre d'élèves, les filières, en quelques mots.
Alors contexte, comment, au niveau du... Alors quand on dit lycée agricole, hein, on devrait dire établissement, puisqu'on a les trois voies de formation, la formation initiale scolaire, ce qu'on appelle le lycée, la formation initiale par apprentissage, qu'on appelle le centre de formation pour apprentis, et le centre de formation pour adultes, qu'on appelle le centre de formation continue. Donc, alors en termes d'attractivité, j'ai un peu de recul puisque c'est ma septième année à la direction de ce bel établissement sur les Hautes-Pyrénées. C'est pas parce qu'il est situé à Vic-en-Bigorre qu'il est centré sur la plaine de Bigorre. Il est bien centré sur l'ensemble des Hautes-Pyrénées, que ça soit la montagne, les coteaux ou la plaine. Et donc globalement, c'est 400 apprenants en formation initiale scolaire et apprentissage. Et puis de l'autre côté, une petite centaine d'adultes, sans parler des formations courte pour adultes. Donc on a à peu près une augmentation depuis 6 ans, depuis 6-7 ans de 30% quand on compte formation lycée et formation apprenti. Puisqu'on est passé à peu près de 280 élèves et étudiants à 300-310, après avoir monté l'an dernier à 330. Et côté apprentissage, on est passé de 35 à 105. Alors, si on veut zoomer sur l'agriculture et sur la forêt, parce qu'il faut pas oublier, ça, on a une bonne résistance et une bonne attractivité sur ces deux types de métiers, que ça soit du CAPA jusqu'au BTS. Donc ça, c'est très important d'avoir ça en tête. Comment on accède au métier de l'agriculture au sens large, et j'ai envie de dire au métier de l'environnement et au métier de la forêt. On y passe par soit la filière professionnelle, donc une seconde ou un CAP, et après seconde pro, bac pro, CAP, PPREA. Donc ça, c'est la première voie. On passe par une seconde générale et technologique et un bac technologique, sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Donc on a bien les deux grandes voies, plus professionnelles et plus technologiques. Et quand on est en pro, on peut aller en BTS. Quand on est en technologique, on va en BTS, mais on peut aller plus loin. Et ce qu'il faut avoir en tête, on est très bien reconnu sur la filière pro, que ça soit tant agricole que forestier. Par contre, en général et technologique, il faut rappeler qu'on est comme à l'éducation nationale, mais on prépare le bac techno STAV, et que là, on accuse un recul par rapport à ça. Donc ça, c'est sûrement un manque de communication, parce que derrière, il y a des perspectives énormes.
Alors Franck, une question qui me brûle les lèvres, parce qu'aujourd'hui, partout, on entend la difficulté à trouver des jeunes qui seraient intéressés pour s'installer. Reprendre des fermes ou s'installer en tant qu'agriculteur. Qui sont les jeunes qui viennent dans votre établissement, et quel est votre regard justement sur cette difficulté d'attractivité en termes d'installation agricole?
Alors, il faut rappeler que sur Vic-en-Bigorre, sur les Hautes-Pyrénées, on est encore bien typé lycée, ce que je veux dire agricole. Ça veut dire qu'on n'a pas, on ne subit pas la désaffection qu'on peut avoir dans des lycées plus urbains. Donc ce que je vous dis, depuis 6-7 ans, donc on a augmenté de 30% les jeunes, notamment dans le milieu agricole, qui veulent s'intéresser au milieu agricole. Et ce n'est pas forcément des fils ou des filles d'agriculteurs. Deux chiffres. Premier chiffre, il y a 30% de filles, 70% de garçons. Donc c'est pas 50-50 sur les filières agricoles, mais c'est quand même 30% de filles. Elles sont très prisées parce qu'elles font très attentionnées par rapport au matériel agricole qui coûte maintenant très cher, et elles savent très bien se débrouiller. On n'a plus besoin de forces qui ne réfléchissent pas. On a besoin de forces on a besoin de personnes qui réfléchissent et qui manipulent des engins chers. Et la deuxième chose, c'est qu'on a 75% des gamins qui viennent dans ces formations agricoles qui sont hors cadre familial. Comme je dis un peu trivialement, si on attend que 2,5% de la population agricole se reproduise pour faire le renouvellement des générations, on n'y arrivera pas. Donc on est très attentif que les hors cadres familiaux soient bien en tête que maintenant, si on veut être en agriculture, on n'a pas besoin d'être fille ou fils d'agriculteur pour y être. Et on a besoin de renouveler les générations. Il y a 50% des gens qui vont partir à la retraite, soit en s'installant. Donc on peut s'installer, on peut être salarié, parce que l'agrandissement des exploitations demandera un salariat, soit dans tout ce qui est encadrement et le conseil. Donc on a vraiment besoin de gens du niveau bac pro jusqu'au niveau BTS, licence et ingénieur. Et on a mis en place un nouveau système à la fin du BTS, où il y a un concours qui permet aux jeunes de passer en classe passerelle pour intégrer les écoles agro et véto, parce qu'on a aussi besoin d'agronomes pour l'encadrement de toute la filière agricole, environnementale et forestière.
Franck, deux mots en termes de contenu, en termes de formation Et puisqu'on voit bien que notamment l'agroécologie est un élément un peu plus mis à la lumière des enjeux, des acquisitions en tout cas, le regard sur le vivant, le regard sur la bienveillance sur ce qui peut être le vivant et au-delà de là, ça, il y a aussi tout ce paradoxe, ce monde paradoxal entre la nécessité de produire mieux, de produire bien et puis derrière un contexte environnemental et sanitaire très complexe.
Alors effectivement, bien avoir deux choses en tête par rapport à ce qu'on vient de dire. Un, la souveraineté alimentaire. Il faut avoir en tête que la balance commerciale française au niveau agricole et agroalimentaire va potentiellement être négative pour la première année depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça, il faut avoir ça en tête. On est autosuffisant qu'à 40 ou 50% dans beaucoup de filières. Donc il y a besoin de produire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et Benoît, vous avez raison, c'est de dire il faut produire propre. Il faut produire propre environnementalement et au niveau des santé des consommateurs. Donc là, l'enseignement agricole là-dessus a été depuis une trentaine d'années agriculture durable dans les années 90, puis maintenant agroécologie, avec plusieurs programmes. On va être au troisième, enseigner à produire autrement, le 1, le 2, et là on va passer au 3 pour faire comprendre aux jeunes que c'est bien économie et écologie qui sont les deux faces d'une même pièce qui permet de faire quelque chose de propre et d'économiquement viable. Alors ça, c'est pas que des paroles. On l'a mis en application sur l'exploitation agricole et forestière de l'établissement. Pourquoi? Parce qu'on a un troupeau de vaches laitières qui, il y a encore 4 ans, ne pâturait pas. Tout était amené à l'auge. Et donc là, on a mis en place un pâturage tournant. Donc on diminue les charges, on augmente les produits. Par rapport à ça, et on est vers l'autonomie alimentaire, respectueuse dans l'environnement. On est sur zéro glyphosate. On utilise un peu de phytosanitaire quand il y en a besoin, mais on est dans une démarche agroécologique et on montre aux jeunes qu'on peut avoir une agriculture et productive d'un côté. On est encore avec des vaches à 9500 kg de lait par lactation. On était à 11500, mais aussi très respectueuse de l'environnement. Donc c'est bien les deux qu'il faut jouer et on est capable de le faire. Et au niveau de la santé financière de l'exploitation, moi j'ai la chance de pouvoir vous dire que les difficultés financières qu'il y avait il y a 4-5 ans, on est de moins en moins en difficultés financières, même dans une exploitation publique. Donc c'est ça qui est très motivant par rapport à ça. Donc moi je vous donne un recul de 7 ans, tout le travail qui a été fait avec les équipes depuis 7 ans va vers une meilleure économie, une meilleure écologie.
Donc c'est possible. C'est tout à fait possible. Dernière question, Franck, agriculture et énergie, parce que c'est un sujet de plus en plus évoqué, cette dépendance énergétique et la capacité qu'a l'agriculture à fournir de l'énergie verte. Donc, est-ce que ce sont des choses qui sont abordées dans le cadre de l'enseignement? Est-ce que ce sont dans les projets des jeunes des choses qui sont évoquées, que ce soit l'agrivoltaïsme ou la méthanisation, par exemple? Dites-nous quelques mots là-dessus.
Alors, l'énergie, avoir en tête une chose. Il y a toujours eu, entre guillemets, concurrence entre la production alimentaire et la production énergétique. Moi, j'ai une référence. La référence, elle est assez simple. C'est que quand vous regardez les schémas des exploitations avant les années 50, vous avez à peu près entre 15 et 20% de l'assolement qui était prévu pour l'attraction animale, donc qui était prévu pour l'énergie. Donc tant qu'on a des exploitations qui ne dépassent pas la production énergétique à plus de 20% de l'assolement, on est raisonnable par rapport à cette concurrence-là qui existe. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Benoît, vous avez raison, il y a la méthanisation. La méthanisation, alors on est bien placé au lycée agricole de Vic, puisqu'on était pionnier dans les Hautes-Pyrénées il y a 15 ans pour mettre en place une unité de méthanisation. Alors la méthanisation, ça marche très bien en injection gaz. Le business plan est rentable. En cogénération, donc en production d'électricité, et on l'a démontré au lycée agricole de Vic, ce n'est pas rentable. Le soutien fiscal qu'il y a sur l'électricité produite par la méthanisation n'est pas suffisant pour avoir un business plan positif. Donc c'est pour ça qu'on a arrêté la méthanisation cogénération sur Vic. Après, il y a l'agrivoltaïsme. Donc ça, on y réfléchit fortement, puisqu'on est impliqué dans des réflexions sur de l'agrivoltaïsme sur parcelles à pâturage. Et donc ça, à un moment donné, Il faut avoir en tête que l'autoconsommation d'électricité par le photovoltaïsme va permettre de diminuer les charges, où vous savez tous que l'électricité a pris au niveau financier une augmentation forte. Donc on est aussi là-dessus par rapport à l'énergie. On a aussi une chose, c'est que dans les méthodes et les pratiques culturales, pouvoir diminuer notamment le labour qui permet de consommer moins d'énergie fossile et qui permet notamment d'économiser du travail du sol. Donc c'est vrai pour l'écologie, c'est vrai pour l'économie. Donc là aussi, on est vertueux par rapport à ça.
Ce sera ma dernière question, Franck. On va parler un petit peu de vision, de voir un petit peu quelle vision vous avez. On a entendu par la présidente de la région Occitanie la nécessité de poser vraiment une visée, une vision pour l'agriculture de ce territoire, soulignant que jusqu'à ce jour et à sa connaissance, ça manquait fortement de visée et de vision. C'est quoi votre avis ?
Alors la présidente de région a complètement raison dans le sens où il faut donner un cap. Il faut donner un cap par rapport à l'agriculture. Sans cap, on peut vite se perdre et se disperser et ne pas répondre aux objectifs que la société nous demande. La société, elle nous demande quoi ? Un, de produire suffisamment au niveau alimentaire. Deux, de produire à un coût raisonnable. Mais deux, de produire au niveau d'une santé positive. Donc il faut qu'on produise propre, en quantité, et d'un point de vue économique acceptable pour les populations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a la chance en Occitanie d'avoir une pluralité d'agriculture, une pluralité de produits. Et pour produire économiquement viable pour les exploitants, il faut faire de la qualité, il faut faire de la valeur ajoutée. Tout ce qui est de la production générique de produits, du lait de base, de la viande de base, ne rapporte pas suffisamment. Donc il faut être dans la transformation et dans la commercialisation. La présidente de région a raison de dire que là, il faut réfléchir à faire plus de transformation. Vous savez l'appétence que j'ai notamment par un territoire comme l'Aubrac sur le Nord Aveyron. C'est un territoire qui est capable, à partir du lait, d'avoir un businessment très positif et pour les agriculteurs et pour la coopérative, notamment Jeunes Montagnes, pour produire de l'aligot et de la tome d'aligot et du fromage, qui permettent de rémunérer à plus de 550 euros tonne, plus de 600 euros tonne le lait au niveau des agriculteurs et faire du bénéfice au niveau d'une coopérative. Donc là, on est typiquement dans quelque chose en valeur ajoutée qui permet à tout le monde de s'y retrouver. Et le consommateur ne s'y trompe pas. Il est au rendez-vous. La deuxième chose, on peut les produits de meilleure qualité coûtent effectivement un peu plus cher, mais il suffit d'en manger un peu moins puisqu'ils sont mieux nutritionnellement. Donc globalement, le panier de la ménagère peut, en termes d'économie, être au même tarif, et en termes de santé publique, être plus vertueux, et en termes de santé publique, notamment je pense à l'obésité, je pense aux maladies cardiovasculaires, être plus vertueux aussi. Donc on a tous à gagner à manger mieux, à manger moins, en rémunérant mieux les agriculteurs.
Nous sommes à la fin de l'émission, Franck. On a bien entendu le passionné que vous êtes, l'homme investi depuis 7 ans déjà auprès des jeunes, nos jeunes, pour faire de cette agriculture, redonner à cette agriculture ses lettres de noblesse et une perspective, une vision. Donc merci infiniment. Je sais que vous allez changer rapidement de métier, mais bon, je vais vous remercier quand même pour l'implication que vous avez eue auprès des jeunes sur ce territoire et pour la fonction que vous avez portée brillamment. Merci encore Franck et puis au plaisir.
Benoît, merci beaucoup de cette interview. Alors, vous me tendez une perche par rapport aux perspectives. Je reste cohérent par rapport à mes valeurs. Vous avez compris que moi, l'agriculture, l'environnement et l'animation du territoire, le développement territoire me tient à cœur depuis 35 ans d'activité professionnelle. Donc je vais rester dans les Hautes-Pyrénées, qui me tient à cœur. Je vais aussi faire un pas côté Pyrénées-Atlantiques, puisque je vais prendre à partir du 1er mai la direction du Parc National des Pyrénées, où vous avez tous compris qu'il y a aussi un projet complexe à assumer entre la préservation de la biodiversité, la préservation d'une agriculture sur le Parc National, et aussi les activités autres, comme le tourisme. Donc on est toujours dans l'idée que, et le Parc National des Pyrénées, par rapport à ce dont on parlait là, est fer de lance, puisque dans la marque Pyrénées, et notamment dans les produits, il fait partie des deux parcs au niveau national qui sont le plus en avance. Donc il n'y a pas concurrence entre biodiversité et agriculture, mais complémentarité. Et le Parc National des Pyrénées fait partie des acteurs de ce territoire, que ce soit les Pyrénées-Atlantiques ou des Hautes-Pyrénées, à œuvrer pour une meilleure agriculture, un meilleur environnement et une activité ouverte vers l'extérieur et accueillante pour les touristes.
Merci infiniment et au plaisir, on viendra vous revoir dans le cadre du parc. Merci Franck, à bientôt.
Voilà pour cette émission que vous pouvez retrouver sur le site de la radio. Je ne saurais trop vous inviter à aller y flâner pour trouver des très belles choses qui s'y passent et que nous diffusons. En l'occurrence, cette émission, donc la chronique verte de Benoît Guillard, qui se trouve dans une des nombreuses rubriques de la radio. On se retrouve dans quelques instants avec le frère Martin de l'abbaye de Tournaille.
Rack my brain hoping to explain things you do to me by mere Mr. Shame. Please let me explain by mere Mr. Shame means that you're grand. By mere Mr. Shame, gun and a game means you're the fairest in the land. I could say Bella Bella, even say Thunderbar. Each language I'm leak out is sharp. How wonderful you are, I try to explain by mere Mr. Shane, so kiss me so you'll understand.
Sardines sur Présence.
Radio Présence à Saint-Céré, 95.8.
Alors, on va y aller un petit peu plus doucement maintenant avec le frère Martin de l'abbaye de Tournaille qui est au micro d'Anne-Rose Jankovic pour nous présenter son coup de cœur en librairie de la semaine.
Bonjour frère Martin.
Bonjour chère Anne-Rose et bonjour à vous chers auditeurs. Nous nous retrouvons dans la joie de Pâques désormais.
Ah bah vous m'ôtez les mots de la bouche. Voilà, effectivement nous sommes... D'abord c'est toujours la joie de vous retrouver dans cette chronique littéraire frère Martin. Mais alors là on est l'un et l'autre et tous nos auditeurs remplis de la joie pascale. Et vous allez nous parler d'un livre qui va nous réjouir. réjouir puisque on va parler de Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme. C'est un livre écrit par Daniel Marguerat. C'est un livre qui va peut-être nous casser quelques préjugés qu'on peut peut-être avoir sur saint Paul.
Oui, alors je l'ai choisi justement un peu pour cette raison, parce que ce livre vient de sortir en poche, donc je trouve qu'il est plus accessible pour les auditeurs. On peut le prendre un peu partout. C'est un livre qui est un peu conséquent, évidemment, il faut le dire, puisqu'il reprend toutes les épîtres de Paul en détail l'une après l'autre. Et donc, voilà, c'est peut-être bon de pouvoir le transporter quand on va quelque part. Mais je pense que c'est surtout pour nous aider à entendre le message qu'il y a dans les écrits de Paul. Et bien de nos auditeurs, même certains qui sont des chrétiens engagés, peut-être, on se dit, oui, voilà, Paul, oh là, pas très facile, il a quelques pointes...
Il a parfois mauvaise réputation, quand même.
Voilà, il a des pointes un peu denses. Et donc, nous sommes invités, je vous invite à relire ces textes de Paul à la lumière des commentaires de Marguerat pour... Eh bien, nous faire une idée renouvelée. Et au moins, voilà, j'invite les auditeurs à d'abord lire le grand premier chapitre pour nous repérer le contexte de qui était Paul, comment il s'est converti et quelles sont toutes ces villes à qui il envoie des lettres pour mieux comprendre déjà le pourquoi de ces lettres. Et à partir de là, on avance et on comprend des fois la tonalité de ce qu'il écrit.
Donc c'est d'abord une approche du contexte historique, voire un peu géopolitique ou en tous les cas géographique.
Oui, et puis du pourquoi à chaque fois Paul écrit, quoi. Ça me paraît vraiment d'abord très 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 important. Et en plus, ce qui me paraît aussi résonner avec ce temps pascal, c'est que dans la liturgie, nous avons le livre des Actes des Apôtres qui retrace justement l'itinéraire de Paul.
Qu'est-ce que vous avez découvert sur Paul? Est-ce qu'on découvre un homme plus moderne que ce qu'on imagine?
Ah ça, tout à fait. Et puis surtout, on découvre vraiment le milieu d'où il est originaire et qui façonne son être. Et dans sa conversion que certains voient excessivement brutale, enfin, on comprend mieux pourquoi il traque ceux qui sont chrétiens et peut-être pas avec le regard que l'on porte aujourd'hui comme ça au XXIe siècle, mais parce qu'il y avait un problème dans le milieu juif à cause des gens qui désormais suivaient le Christ. Et donc, il fallait quand même un peu faire le tri et tout. Voyons comment nous, quand il y a une tension dans un groupe d'église, on s'y prend, quoi. Donc, il y a des choses qui nous ramènent aussi à ce que nous vivons dans nos communautés, dans notre église de Cézanne, dans notre église.
Oui, parce qu'il faut quand même redire que dans ce contexte-là, on est vraiment, bien sûr, aux prémices du christianisme, et donc les choses s'organisent, se construisent avec le zèle des apôtres, mais quand même un peu timidement, ils vont à tâtons parce que c'est nouveau.
Oui, tout à fait. Et puis, il y a des divergences entre les personnes, il y a des choses qui nous paraissent excessivement, entre guillemets, ringardes ou rigides, et en fait, l'auteur, Marguerat, nous montre bien qu'au contraire, vis-à-vis du judaïsme qui est dans lequel a vécu Paul et tous les gens de cette région-là, il y a une énorme nouveauté qui est mise en place, quoi. Et je crois que ce livre nous permet de prendre conscience de cette extrême nouveauté et comment peut-être conjuguer une nouveauté dans notre Église aujourd'hui.
Voilà, Paul de Tarse, l'enfant terrible du christianisme, et finalement pas si terrible que ça. En tous les cas, c'est ce qu'on découvrira à travers ces pages de Daniel Marguerat. Donc ce livre paru aux éditions Point Histoire, 560 pages, au prix de 14,60 €, et c'est un livre évidemment disponible à l'abbaye Notre-Dame de Tournai, à la librairie de l'abbaye Notre-Dame de Tournai.
Et pour les puristes, vous avez encore la grande version chez Seuil, si vous voulez avoir un livre plus facile à lire, plus grand, mais bon, voilà.
Voilà, soit on l'a dans la bibliothèque, soit on l'a dans la poche.
Voilà.
Merci.
Mais surtout,
beaucoup.
N'hésitez pas à le lire pour vous et peut-être avec d'autres aussi, en parler, faire un petit groupe en paroisse. C'est pas un livre qu'on lit comme un roman, mais on se pose et on lit un petit bout, un petit bout, un petit bout. C'est tout à fait facile de le reprendre au fil du temps.
Merci, frère Martin. On retient cette idée, cette bonne idée de lire ce livre en groupe. Voilà, peut-être lancer des nouveaux groupes dans nos paroisses. Merci beaucoup. À la prochaine fois, frère Martin.
Merci à vous et à bientôt.
Frère Martin était au micro de Anne-Rose Jankovic. Dans une poignée de minutes, les informations régionales suivies de la chronique solidaire de Anne Deslois. On se retrouve tout de suite. 12h32 à la pendule de présence à toutes et à tous qui nous écoutaient sur les différentes fréquences de notre radio. Très très bon appétit, une très très belle journée puisque au-dessus des studios de Lourdes, eh bien, le soleil est bien présent avec un très très beau ciel bleu. C'est donc pour moi l'occasion de vous souhaiter une très belle journée en cette octave de Pâques. Voici le journal de la mi-journée.
Présence dans la cité mariale 96.
En Occitanie, de plus en plus de personnes recherchent un emploi. Le taux de chômage est grimpé à 9,4% en 2025. François Hilde, économiste statisticien chez INSEE, revient sur les causes de cette hausse.
Cette baisse de 0,2% dans la région représente une perte de 3 900 emplois. Cette baisse d'emplois en 2025 est essentiellement concentrée dans le secteur privé. Et dans le secteur privé, cette baisse d'emplois provient essentiellement de l'effet de la baisse des aides à l'apprentissage, puisqu'en effet, la baisse du nombre de contrats en alternance contribue dans la région Occitanie à près de 90% de la baisse de l'emploi privé en 2025.
C'était François Hilde, économiste et statisticien à l'INSEE. Le programme national territoire éducatif ruraux intervient en Basse-Vallée du Lot. Il vient briser l'isolement de 13 écoles et de 3 collèges. Ce dispositif offre aux élèves des activités comme l'apprentissage de la natation via la classe bleue et un accès renforcé à la lecture grâce au financement de nouvelles bibliothèques. EDF lance un chantier de 500 millions d'euros pour agrandir la centrale hydroélectrique de Montézic dans l'Aveyron. Le projet prévoit l'ajout de 2 nouvelles turbines pour produire 466 MW supplémentaires, soit la moitié de la puissance actuelle. Cette batterie géante stocke l'électricité verte et sécurise l'approvisionnement pour des millions de foyers de Français. Cet investissement confirme le rôle clé de l'Aveyron dans la transition énergétique nationale. À Mirande, le maire Bernard Doré répond à l'opposition qui critique la hausse des indemnités des élus. Il rappelle que ces sommes restent volontairement très basses, entre 36 et 51% du maximum légal. L'augmentation constatée des indemnités de fonction vient d'un ajustement national automatique. Pour sa 13e journée sport handicap, la ville de Tarbes accueille 19 associations. Celles-ci proposent des initiations gratuites à différents sports, du rugby au tir à la sarbacane. Des ateliers permettent aussi aux personnes valides de participer pour encourager l'inclusion à travers le jeu et les rencontres, ce samedi à la halle Marcadieu. Des candidats de l'émission télévisée Lego Master présentent leur création inédite aux côtés de l'association Nova Brique. Le village de Vabre-l'Abbaye accueille une grande exposition Lego sur 500 mètres carrés ce week-end, un rendez-vous familial, créatif et solidaire pour les passionnés ou curieux. Les bénéfices seront versés à l'association des parents d'élèves de l'école Sainte-Famille de Vabre.
Et merci à Jenny Lee Chieb de l'Institut supérieur de journalisme de Toulouse pour les informations de cette semaine. On continue en musique juste avant de retrouver la chronique solidaire de Anne Deslois.
Mostrar a quem vem aquilo que o povo diz. Posso falar, pois eu sei. Eu tiro os outros por mim. Quando almoço, não janto. E quando canto, é assim. Agora vou divertir. Agora vou começar. Quero ver quem vai sair. Quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir. Quem não quiser me escutar. Quem tem dinheiro no mundo, quanto mais tem, quer ganhar. E a gente que não tem nada, fica pior do que está. Se o moço tem a vergonha, acabe a descaração. Deixe o dinheiro do pobre e roube outro ladrão. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir. Se morre o rico e o pobre, enterre o rico e eu. Quero ver quem que separa o pó do rico do meu. Se lá embaixo há igualdade, aqui em cima há de haver. Quem quer ser mais do que é, um dia há de sofrer. Agora vou divertir, agora vou prosseguir. Quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai sair. Não é obrigado a escutar, quem não quiser me ouvir. Se o moço tem
tenha cuidado com sua exploração. Se não lhe dou de presente a sua cova no chão, quero ver quem vai dizer, quero ver quem vai mentir, quero ver quem vai negar aquilo que eu disse aqui. Agora vou divertir, agora vou terminar. Quero ver quem vai sair, quero ver quem vai ficar. Não é obrigado a me ouvir quem não quiser me escutar. Agora vou terminar, agora vou discorrer. Quem sabe tudo e diz logo, fica sem nada a dizer. Quero ver quem vai voltar, quero ver quem vai fugir, quero ver quem vai ficar, quero ver quem vai trair. Por isso eu fecho essa roda, a roda que eu te fiz, a roda que é do povo, onde se diz o que diz, onde se diz o que diz, mas onde se diz o que diz, onde se diz o que diz.
Et Gilberto Gil sur Présence qui nous chantait Roda.
Présence à Aspect 94.1.
Et comme tous les vendredis, voici la chronique solidaire de Anne Deslois. Aujourd'hui, elle est en compagnie de Elisabeth Lemierre.
Bonjour à tous et à toutes. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Alors, quand je dis Elisabeth, je parle d'Elisabeth Lemierre. Elisabeth, vous êtes aumônier du centre pénitentiaire de Lannemezan. Alors c'est vrai que nos auditeurs vous connaissent. La semaine dernière, lors du vendredi de la Passion, vous nous avez parlé de votre mission et de ce que la passion, ce que vous en vivez d'une certaine façon en accompagnant les malades. Là, vous êtes là dans votre mission en tant qu'aumônier du centre pénitentiaire de Lannemezan. Alors, on va là aussi aborder un thème fort qui est celui de la résurrection du Christ. Alors bien sûr, au cœur d'un lieu qui est souvent marqué par l'enfermement, la rupture. C'est la prison. Tout d'abord, Elisabeth, que représente la fête de Pâques en prison, mais comment vous avez vécu des célébrations autour de Pâques dans ce milieu très fermé?
Alors, Pâques en prison, en fait, pour les personnes, pour beaucoup de personnes détenues, ça fait partie des grandes messes auxquelles on peut participer, même si on va pas aux autres messes de d'habitude. Au même titre que Noël, on va à Noël. Noël, c'est un peu différent. Noël, c'est les souvenirs de famille, c'est la famille, c'est un peu de douceur autour d'une journée très très dure en prison. Pâques, c'est aussi des souvenirs de famille, mais on vient y chercher de la force.
Ah oui.
Il y a ce sentiment plus ou moins conscient de personnes détenues, celles qui sont vraiment croyantes le savent très bien, celles qui viennent un peu en découvrant, en se remettant en chemin, savent très bien que venir à la messe, et encore plus à celle de Pâques, en fait, c'est vraiment venir recevoir de la force, venir recevoir de la lumière, venir recevoir de la paix au cœur de cette détention qui, parfois, est bien sombre dans la tête, dans le cœur, dans l'univers qui entoure. Voilà.
Voilà, c'est sûr. Alors, comment parler de vie nouvelle derrière les murs? Comment l'espérance chrétienne peut-elle rejoindre celles et ceux qui sont détenus?
Alors, on va parler d'espérance, mais avant de parler d'espérance, je veux aussi témoigner de notre compassion auprès des victimes. Voilà. Quand on parle des personnes détenues, moi je parle aussi toujours en disant qu'on n'oublie pas les victimes, juste on a été envoyé vers les personnes détenues et nous témoignons de ce que nous vivons à leur côté. La résurrection de Jésus en prison, moi j'ai envie de dire, il se joue quelque chose qui est de l'ordre de « il est là ». Même si beaucoup m'ont abandonné, parce que notamment à Lannemezan, on est sur des actes très très graves, des peines très lourdes, mais pour des actes extrêmement graves, où l'irréparable a été commis, souvent. Et ben il n'est pas rare d'avoir des personnes détenues qui ont été abandonnées par tout le monde. Et là, nous sommes dans le Vendredi Saint.
Eh oui.
De Jésus, qui a été aussi un peu abandonné par ses plus proches, au cœur de la souffrance. Bon. Et du coup, les personnes détenues qui viennent à la messe savent que là, il y en a d'autres qui attendent, il y a un prêtre qui vient, il y a une équipe qui est là. Donc là, l'abandon, en fait, on touche du doigt que d'autres ne nous ont pas abandonnés, même si c'est des inconnus. et c'est encore plus fort parce que ce sont des inconnus, et que tous sont le signe de Jésus qui n'abandonne pas. Voilà. Alors, ça, je le dis avec mes mots, mais j'ai essayé de me rappeler de paroles que j'ai entendues récemment en prison. Je pense à il y a 3 semaines, quand un détenu est venu pour la première fois. Un autre lui a dit devant moi, en lui tapant sur l'épaule, « Bravo frère, enfin t'as compris où était la lumière en venant ici. »
Oh là là, magnifique.
Magnifique. J'étais...
C'est fort.
J'étais scotchée, quoi. Oui. Un autre qui disait au surveillant, en arrivant à la messe... Bon, moi, tu me connais, hein, tu sais bien que je suis pas le plus facile de tous les détenus. Et tu vois, de venir ici, ça m'apaise, ça me fait du bien. Et le surveillant a dit, bah ça, je l'ai compris. Voilà, le Seigneur qui est présent là, à la messe, où nous prions, nous faisons silence, nous entendons la parole de Dieu. Le prêtre sourit, hein, qui disait la semaine dernière, bah tu vois, je suis arrivée, j'étais au fond du seau. Le sourire du prêtre me redonne la paix, je repars moi-même avec le sourire. Et ils savent très bien qu'au-delà du prêtre, de nous, de l'aumônier, des gens qui sont là, en fait, c'est le Christ qui est là. C'est le Christ qui redonne le sourire. C'est le Christ qui nous offre sa lumière. C'est le Christ qui ne nous lâche pas, qui ne nous abandonne pas, quoi.
Alors justement, j'entends à travers ce que vous dites que la résurrection, c'est vraiment une ouverture dans l'enfermement. Comment cette espérance peut-elle être reçue par les personnes détenues? Alors celles que vous rencontrez dans le cadre de l'aumônerie, je pense qu'elles ont toutes, bien sûr, des profils différents. Comment la résurrection, cette ouverture, peut vraiment les habiter pour arriver à vivre les moments difficiles de l'enfermement?
Oui, alors effectivement, chacun a son chemin unique. Voilà, ça c'est clair. Je veux dire, on peut pas faire de généralité là-dessus. Ce qui est clair, c'est que il y a quelque chose de la vie éternelle qui passe par des instants d'éternité que nous vivons en détention, d'accord, et qui passe sur l'ouverture du ciel. Alors pour certains, c'est incompréhensible, c'est inacceptable, c'est pas imaginable que le Seigneur les accueille quand ils ont bien réalisé la conséquence de leurs actes. Ils disent c'est pas possible, quoi. Et nous continuons à dire que le Seigneur nous accueille si nous nous reconnaissons en vérité devant lui et que nous nous laissons accueillir, que nous demandons pardon. Certains sont capables de l'entendre, d'autres, j'oserais dire dans l'espérance, pas encore. Et on espère qu'à un moment, le pas pourra se faire. Le jubilé est un grand moment pour ça, sur lequel après nous avons pu vraiment discuter beaucoup. La présence de nos évêques est très forte aussi, hein, quand ils nous rejoignent pour les Eucharisties chaque année, à Noël ou à Pâques. C'est très fort pour nous dire vraiment, les aumôniers nous le disent, l'évêque nous le dit, alors peut-être il y a quelque chose à oser croire au moins un peu de ce Christ qui, au-delà de tout ça, nous sait plus grand que ce que nous avons fait. Et est capable quand même de nous accueillir, même si nous nous condamnons et que la culpabilité est là. Mais la culpabilité, heureusement qu'elle est là aussi. Mais juste le défi, c'est comment essayer de pouvoir ensemble découvrir quelque chose de l'espérance qui permet de sortir de la culpabilité pour essayer d'être debout et de se laisser sauver par le Seigneur, au-delà de tout ça.
Elisabeth, justement, à travers tout ce que vous nous partagez, à travers vos paroles, on voit que presque dans le quotidien, vous voyez des signes concrets de cette vie nouvelle qui nous est donnée par la résurrection. Alors, est-ce que vous m'aviez dit au début de l'émission que vous aimeriez bien partager une prière écrite par un détenu?
Oui, c'est une prière qu'une personne détenue de Tarbes a écrite parce qu'il allait être confirmé. On lui avait proposé d'écrire une prière d'action de grâce juste après avoir reçu la confirmation en prison. Et donc, je vous la partage parce que je trouve que elle nous dit vraiment quelque chose de la mort et de la résurrection. Elle nous dit quelque chose du Vendredi Saint qui débouche sur Pâques. Pour nous, enfermés par la justice des hommes, pour nous, dans la peine et la haine parfois, pour nous égarés dans le péché, mais cherchant la vérité. Pour nous qui retrouvons la raison et qui, grâce à Dieu, devenons heureux. Pour nous qui nous relevons et commençons à marcher vers l'horizon. Pour nous futurs libérés qui avons trouvé la vérité. Pour nous que tu as sauvés, Seigneur, malgré nos péchés. et qui sommes enfin en paix. Seigneur, du fond de notre prison, nous te remercions de ta compassion.
Merci. Amen. Elisabeth. Merci beaucoup pour ce partage, pour cette prière qui ouvre justement des perspectives profondes et pleines d'humanité. À une prochaine fois sur les ondes de Radio Présence Lourdes.
Merci beaucoup et bonne fête de Pâques à chacun et chacune. Bon temps pascal.
See the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through to make those rainbows in my mind. When I think of you sometime, and I want to spend some time with you, just the two of us. We can make it if we try. We look for love, no time for tears. Wasted water's all that is, and it don't make no flowers grow. Good things might come to those who wait, not for those who wait too late. We gotta go for all we know. Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us.
À Montrégeau, 94.1.
Du Pays basque au rivage de la Méditerranée, les Pyrénées ont inspiré quantité d'écrivains célèbres. Ces monstres sacrés de la littérature évoquent avec talent les panoramas d'exception, leurs souvenirs d'enfance, leurs aventures dans les fameux sites pyrénéens. Écoutez, voyagez, rêvez, vibrez, admirez, aujourd'hui avec Simone de Beauvoir.
Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir se sont rencontrés alors qu'ils préparaient l'agrégation de philosophie en 1929. Ils ne se quitteront plus. Leur liaison, dominée par la littérature et les rapports amoureux libres, restera indéfectible. Traditionnellement, les vacances scolaires sont consacrées aux voyages en Europe, mais en cette année 1941, l'Europe est à feu et à sang, et la France est coupée en deux par la ligne de démarcation. Simone, Jean-Paul et un ami, en vacances à vélo dans le sud-ouest, décident de passer en zone libre et de musarder dans les Pyrénées. Simone de Beauvoir adore la marche dans ces montagnes qui l'entourent. Et au classique attirail des randonnées, sac à dos, souliers ferrés, jupe et cape de l'Oden, elle préfère une vieille robe, des espadrilles et dans un cabas, quelques bananes et des brioches. Nous voulûmes retourner en zone libre pour changer d'air. Le paysage était particulièrement facile au Pays Basque, disait-on. Quelqu'un nous indiqua une adresse à Sauveterre. Bost nous accompagnait. Vers midi, un guide nous emmena à bicyclette sur une petite route. « Voilà, vous y êtes », nous dit-il au bout de 500 mètres. Nous déjeunâmes à Navarinx. L'auberge était remplie de réfugiés qui, eux, n'avaient pas traversé la ligne pour leur plaisir. Des juifs, pour la plupart, et qui semblaient harassés. Nous fîmes un grand tour dans les Pyrénées. Les paysages de haute montagne avaient moins d'éclat que ceux des Alpes. J'aimais surtout le bas pays, Saint-Bertrand de Comminges et son cloître. Montségur, le célèbre repère d'où les Albigeois défièrent longtemps les croisés du Nord. J'emmenais à Lourdes Bost, dont les yeux protestants s'écarquillèrent devant les palais du Rosaire, leurs vierges à musique, leurs grottes phosphorescentes, leurs pastilles miraculeuses. Sartre ne vint pas avec nous. Il nous laissait faire seuls certaines promenades et il travaillait. Ainsi, un matin, je montais à pied avec Bost du col du Tourmalet au pic du Midi de Bigorre. Sartre resta assis dans un herbage, en plein vent, à écrire sur ses genoux. Nous le retrouvâmes, ayant couvert des pages sous la rafale et très satisfait. Cependant, le voyage était assez fatigant, à cause de la dureté des côtes et du mauvais état des chambres à air. Il fallait sans cesse les réparer. En outre, nous mangions trop peu. Pour déjeuner, nous achetions dans les villages des fruits et des tomates. Nous dînions ordinairement d'une soupe claire et d'un méchant légume. La viande était si rare que, sur un agenda où je note seulement nos étapes, j'ai marqué un jour deux viandes à déjeuner. On ne trouvait pas aisément de la place dans les hôtels. Et souvent, nous dormions dans des granges. À travers les mots, les regards inspirés par nos belles Pyrénées, nous avons pu apprécier le talent de Simone de Beauvoir. Merci à Jean-Paul Azam pour son anthologie littéraire illustrée intitulée « Mots et merveilles des Pyrénées », inspirant tous mes récits.
Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, the love you brought my way. You give me all in all. Now I feel 10 feet tall. Sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Sunny, thank you for the facts from A to C. My life was strong like a wind blows sand, and the rock was firm when you hit my hand. Oh, Sunny, what's so true? I really love you.
your face, Sunny. Thank you for the gleam that shows its grace. You're my spark of nature's fire. You're my sweet, complete desire. Sunny, what's a dream? You're my sweet, complete desire, sunny one, so true.
À Saint-Céré, 95.8.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le président français Emmanuel Macron reçu pour la première fois en audience au Vatican par le pape Léon XIV.